cours de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 19 mai 1995.
Nous avons essayé de préciser comment, en éthique religieuse, l'adoration qui est source de la vertu de religion transforme progressivement nos vertus cardinales. Prudence. L'amitié, justice, force et tempérance. Réfléchissez sur ces différents points que nous avons essayé de préciser ensemble. Je crois qu'il faut, à partir de là, essayez de comprendre comment l'éthique religieuse va avoir une influence sur l'éthique familiale. C'est sûr, on peut l'étudier ceci en éthique politique, comme on l'a déjà dit, et qu'il faut toujours se rappeler. Mais je crois qu'on pourrait dire sur la politique européenne, et je crois qu'on pourrait dire sur la politique des États-Unis, pas des Amériques du Sud, c'est un peu différent, ni par rapport au Mexique, ni par rapport aux Philippines, c'est différent. Mais il y a, et par rapport aussi à l'Afrique, c'est encore différent. Supprimer tout l'aspect religieux sur le point de vue de la famille. Ça me semble très net. Si vous, ça vous semble moins net, notez pourquoi ça vous semble moins net. Parce qu'il faut essayer de soi-même de. Si on fait de la philosophie, c'est pour soi-même avoir l'intelligence des expériences que nous avons. Pas rester à la description, mais remonter de l'expérience au principe. Et de voir que la finalité religieuse l'Europe aient l'air d'être en retard par rapport aux États-Unis. Il y a eu les discussions au Caire qui ont bien montré ça. Il y aura une grande réunion à Pékin. Alors là, ce sera toute la nuit. Et la Chine, sur la famille. Donc, reprendre le problème à Pékin, le problème qui s'est passé au Caire. D'une autre manière, c'est évident. Mais au fond, c'est la même interrogation. Et derrière tout cela, il y a une vision philosophique, mais d'une philosophie qui n'est plus une philosophie réaliste, qui est une idéologie plus ou moins socialiste, plus ou moins communiste, marxiste, plus ou moins positiviste.
Immédiate
et on comprend l'éthique religieuse dans ce qu'elle a de plus intérieur. Et on aurait la tendance de dire tout l'aspect religion ou tout l'aspect religieux doit être purement d'intérieur. Pensez ce que vous voulez. Ça fait partie de vos opinions individuelles et personnelles. Mais surtout que ça ne change rien au niveau social. Et le niveau social s'enracine dans la famille. Que ça ne change rien au niveau politique et familial. C'est la tentation aujourd'hui permanente, cela. Et nous devons nous la détecter, la préciser, voir à quel moment cette déviation se fait, à quel moment cette perte de l'éthique religieuse se réalise. C'est tout l'effort du philosophe qui veut sauver l'homme. Si j'ai la conviction, et ça on peut l'avoir, si j'ai la conviction, indépendamment même de ma foi, que l'homme qui se coupe complètement de l'attitude religieuse va à sa perte, qu'une humanité qui veut se laïciser jusqu'au bout, c'est-à-dire une humanité qui ne veut plus entendre parler de Dieu, qui ne veut plus regarder le Créateur, qui ne veut plus regarder l'âme spirituelle dans sa capacité de recherche de la vérité et dans sa capacité d'adorer le Créateur. C'est une humanité qui se suicide, un génocide de l'humanité. Parce que en tuant l'esprit, on tue l'homme. L'homme est fragile, plus qu'on ne pense. Et s'il ne prend pas sa force là où il doit la prendre, nécessairement, il se détruit. Un homme ne peut pas vivre comme un animal supérieur. Or, c'est ce qu'on voudrait. C'est que l'homme vive comme un animal supérieur et que tout vienne de lui et que tout soit à sa dimension et que tout soit le développement de ce qui vient de lui et que l'homme jamais se dépasse en découvrant l'existence d'un être supérieur. Et en l'adorant, il y a comme une espèce de lutte, d'acharnement très nette sur le mystère de l'adoration et qui tend à ce point de vue-là à ne plus être affirmé, même au sein des religions. On veut que l'homme prenne une attitude d'homme et non pas de créature face à Dieu, face au Christ. Et c'est très sensible, ça, dans le monde d'aujourd'hui. Et nous devons le sentir, ça. Le cardinal Suard avait écrit une lettre pastorale très belle de son temps. Le sens de Dieu qui disparaît. Le sens de Dieu qui disparaît, c'est-à-dire une laïcité qui monte de plus en plus nette en supprimant dans le cœur de l'homme tout lien avec Dieu, tout lien religieux. Puisque le sens de Dieu s'acquiert dans l'adoration. C'est par l'adoration qu'on acquiert le sens de Dieu. On ne peut pas l'acquérir autrement. Il n'y a que cette voie-là. Et un monde qui n'adore plus est un monde qui perd le sens de Dieu. Et un monde qui perd le sens de Dieu est un monde qui va à sa ruine. Tôt ou tard. Plus ou moins vite. Il va à sa ruine. Et je crois qu'on est en présence de ce péril. mesure où on le peut, résister à cela. Au point de vue chrétien, dans une perspective chrétienne, on sait très bien que c'est la grande tactique du démon. La grande tactique du démon, c'est de montrer à Dieu et à toutes les créatures que Dieu s'est trompé en créant l'homme et la femme. Il s'est trompé. Il n'aurait pas dû, comme créateur, créer l'homme et la femme et créer l'univers pour l'homme. Il aurait dû s'arrêter à la création des anges. Et donc, la tactique du démon, c'est de montrer l'absurdité de cet univers, l'absurdité de l'homme et de la femme, de l'esprit lié à la matière, et que c'est toujours la matière qui l'emporte sur l'esprit. Et donc faire que ce soit l'homme lui-même qui rende notre monde inhabitable et qui, d'une façon ou d'une autre, détruise cet univers. Ça, ce serait sa grande victoire. Et je crois qu'on peut dire que toute la tactique du démon, c'est cela. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous vous en apercevez. Le démon a une haine vis-à-vis de l'homme et de la femme. Vis-à-vis de la femme et vis-à-vis de l'homme. Il a une haine à l'égard de notre monde physique. Il ne peut pas supporter notre monde physique, qui est pour l'homme. Vraiment, c'est un abus de la part de Dieu d'avoir fait un univers pour l'homme. Il n'a pas fait d'univers pour l'ange, parce que l'ange est son propre univers. Pour l'homme, il a fait un univers. Parce que l'homme est tellement fragile qu'il a besoin de ça. Il a besoin d'un milieu. Et alors, la grande victoire du démon, ce serait que l'homme détruise cet univers d'une manière ou d'une autre. Et tout tend à cela. Alors, il ne faut jamais perdre ça de notre horizon chrétienne. Mieux saisir le combat dans lequel on est. Si on ne voit pas ça, on ne comprend rien au combat dans lequel on est. Alors, on se scandalise ou on se révolte. Et on accuse Dieu. Vous voyez bien. Alors que c'est l'homme qui détruit l'univers. Détruisant l'univers et détruit l'homme. Alors, voyons bien les points sur lesquels l'éthique familiale est modifiée par l'adoration, est modifiée par le point de vue religieux. Je crois qu'il y a trois points. Mettez un quatrième. Successifs que nous allons essayer de préciser. Premièrement, l'amour de l'époux et de l'épouse. Deuxièmement, la procréation. Troisièmement, l'éducation. Quatrièmement, le travail. Je crois que ce sont les quatre points sur lesquels on peut découvrir comment l'aspect religieux imprègne toute la famille. Et que c'est dans cette vision d'une éthique religieuse qu'on peut comprendre ce que c'est que la famille. Et que sans cette perspective d'éthique religieuse, on ne peut plus comprendre la famille. C'est ça qui est très curieux. On arrive presque à dire, vous voyez, que la famille, elle est le lieu où l'homme peut garder garder son attitude religieuse. Que c'est la famille qui est le lieu où l'homme découvre en premier lieu l'attitude religieuse. Et que si la famille ne respecte pas cette dimension religieuse, la famille se détruit elle-même. Libre de l'époux à l'égard l'égard de l'épouse, de l'épouse à l'égard de l'époux. Une coopération, c'est ça qui constitue la famille au plan philosophique, au plan humain. naturel revient au galop. Ça, c'est sûr. Même dans une vie commune religieuse, le naturel vient au galop. C'est sûr. Au début, on connaît personne et on est attentif parce qu'on ne sait pas trop où l'on est. Donc, il y a des regards multiples. Chacun d'entre nous, on a deux yeux. C'est comme au désert, vous savez. On croit que tout le monde ne voit rien. Puis dès qu'on fait quelque chose au désert, tout le monde le sait. C'est très curieux. Ça fait partie. Vous voyez, Moïse qui tue l'Égyptien. Il était sûr que personne ne l'avait vu. Pas du tout. Et c'est la première chose qu'on vous dit quand vous allez au désert. Vous croyez que personne ne voit. Attention. On vous voit très bien. Et aujourd'hui, avec des appareils, on voit encore beaucoup mieux. On peut même prendre des photographies. Et vous détectez dans votre solitude. Et surtout au désert. Surtout au désert. Parce qu'on croit qu'on est seul. On n'est pas seul. C'est très curieux de voir que le don des corps donne à l'amour d'amitié une stabilité qui réclame l'indissolubilité. Parce que le don des corps individualise l'amour d'amitié jusque dans la sensibilité. L'amour d'amitié est premièrement spirituel et donc n'a pas besoin du don des corps parce qu'il a de tout à fait fort, parce qu'il a de plus fort, et même le don des corps peut quelquefois diminuer le point de vue spirituel de l'amitié, diminuer la force spirituelle de l'amour d'amitié. Si l'amour d'amitié n'est pas suffisamment fort, le don des corps matérialise. Et ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de séparations et de divorces. Parce que le don des corps, s'il n'est pas porté par un très grand amour spirituel, matérialise toujours, individualise, et alors peut très bien, dans les moments de fatigue, faire que le point de vue sensible augmente. Vous êtes plus sensible quand vous êtes fatigué. C'est pour ça qu'on vous recommande dans la vie commune de ne pas être trop fatigué par amour pour votre voisin. Si vous êtes trop fatigué, vous allez rendre votre présence insupportable à votre voisin. Parce que la sensibilité devient exacerbée dans la fatigue. Alors deux sensibilités exacerbées, c'est effrayant. On se jette des cailloux en plein visage. Ou des assiettes. Parce que la tension est trop forte. Et alors, il faut bien comprendre que cet amour de l'époux et de l'épouse impliquant le don des corps pour que cet amour soit plus incarné, plus sensible, disons le mot plus charnel, c'est vrai, en vue d'un amour qui soit plus stable, plus fidèle, plus indissoluble. L'indissolubilité, ça c'est sûr, la grande crainte des hommes. en vue d'une plus grande stabilité, en vue d'une incarnation plus profonde de l'amour d'amitié. Philosophique, j'allais dire un problème philosophique, peut-être ne peut être résolu que par un point de vue religieux. Je me pose la question profondément, point de vue philosophique. Et c'est important, de se poser le problème. Est-ce que dans une éthique purement humaine, ce qui a de plus. plus nous-mêmes. C'est notre vie spirituelle, notre recherche de la vérité, notre capacité d'aimer. Pourquoi un amour d'amitié réclame-t-il le don des corps? Dans le mariage entre époux et épouse, si c'est en vue de la procréation, on comprend tout de suite. Ça, c'est net. Si c'est pour l'amour d'amitié, c'est plus difficile à comprendre. Alors, je crois que la seule réponse qu'on peut donner, c'est que l'amour d'amitié atteint la personne humaine. C'est bien par l'âme spirituelle qu'on atteint la personne, mais c'est la personne humaine. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on peut voir les liens qui existent entre l'aspect de l'âme spirituelle et du corps, qui fait comprendre pourquoi l'amour d'amitié peut, je ne dis pas doit,